Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous n'avez pas mal, que vous n'avez pas de douleur à droite, à gauche. Et en tout cas, si c'est le cas, et si on pouvait soulager cette douleur, ces douleurs, grâce à l'auto-hypnose et à l'hypnose, je suis ravie d'accueillir le docteur Philippe Pincalet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurochirurgien et hypnothérapeute, donc deux pratiques qui peuvent parfaitement se joindre. D'abord parce que, comme vous me le disiez, c'est le même organe, on parle du cerveau. Et que beaucoup, tout se passe dans cette tête. Et parfois même cette douleur, qui a forcément des causes tangibles, etc. Mais en tout cas, vous dites, ces douleurs-là, on peut arriver à un moment donné à les maîtriser, à les contrôler. C'est vrai ?
Oui, puisque la douleur a plusieurs composantes. Elle a une composante qu'on va appeler nociceptive, qui est l'influx nerveux douloureux lié à une rage de dent, une fracture, une hernie discale, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a souvent, très souvent, une cause médicale. Mmh. Et Milton Erickson, qui est un des pères de l'hypnose moderne, avait bien montré que dans les douleurs chroniques, il y avait d'autres composantes qu'on pouvait moduler grâce à l'hypnose, et qui représente à peu près 2/3. C'est toute cette interprétation en fait, de ce signal douloureux par le cerveau, la dimension émotionnelle, ce qu'on pourrait appeler la souffrance, qui va en plus de la douleur. Et c'est sur cette composante émotionnelle qu'agit,
agir.
Voilà, on
mais
module le filtre cérébral.
Là, vous avez, en gros, déjà d'emblée, vous nous avez parlé de deux types de douleurs. La douleur aiguë qui est due à quelque chose, on se casse une jambe, on a mal forcément. On se fait arracher une dent, on peut avoir aussi un peu mal, même si aujourd'hui il y a des techniques d'anesthésie qui font que. Mais il y a une cause tangible. Et puis il y a ces douleurs chroniques qui ne passent pas, qui n'ont pas de lien avec une cause particulière et qui pourtant empoisonnent la vie.
C'est la représentation finalement qu'on peut se faire de la douleur. L'anxiété, qui est dans 100% des cas associée à une douleur chronique, on parle de douleur chronique après 3 mois ou 6 mois de douleur qui ne passe pas malgré une prise en charge complète, ou en tout cas qui est pas contrôlée complètement, suffisamment. Et c'est cette dimension d'anxiété qu'on peut traiter grâce à la douleur.
L'anxiété qui est en fait une conséquence de cette douleur chronique qui ne passe pas souvent.
Oui, absolument, qui ne fait qu'amplifier finalement, par phénomène de résonance, la douleur prise qui est ressentie par le corps physique.
En gros, non seulement on a mal, mais on est mal en fait, c'est ça.
Oui. Et ça représente une quantité importante, puisque je citais Erickson, la règle des 3/3 d'Erickson, classiquement, c'est 1/3 de ce qu'on appelle donc la nociception, c'est l'influx nerveux lié à une cicatrice, une fracture, de l'arthrose. Ça, c'est souvent, très souvent, donc une dimension médicale, du corps. Ouais. Et puis, ces 2/3 qui sont liés à cette représentation, cette caisse de résonance émotionnelle. Et les 2 autres tiers, donc c'est la douleur du passé, c'est-à-dire qu'on se rappelle qu'on a eu mal, donc c'est le souvenir de la douleur, 1/3, ce qui n'est pas négligeable, et le 3/3 qui est la peur de la douleur, c'est-à-dire qu'on va anticiper de façon anxieuse le fait d'avoir
et
des douleurs.
Et le fait donc, docteur Pincalet, ça veut dire que si on a et ce souvenir et ou cette anxiété de la douleur, cette douleur va de toute façon être présente parce qu'il y a un effet boomerang, en gros.
Exactement.
De la sensation que l'on a et de peut-être même de la perception que l'on a cérébrale de cette douleur.
Tout à fait. C'est ce qu'on vérifie dans notre vie quotidienne. C'est ce qu'on vérifie en consultation, en pratique médicale et chirurgicale. C'est ce que les neurosciences nous ont montré. Ouais. L'attente de la douleur, l'anticipation anxieuse amplifie. On a vérifié ça dans des imageries fonctionnelles cérébrales, dans certaines régions du cerveau qui s'allument simplement par le fait d'avoir peur de la douleur.
Ouais. Et là, donc, du coup, à l'inverse, ce que peut produire en réalité l'auto-hypnose ou l'hypnose, on va parler des deux, mais cette auto-hypnose que vous proposez, c'est se dire on va peut-être maîtriser cette anxiété, cette appréhension. Donc, on va finalement aller chercher un petit peu une case dans notre cerveau, dans notre esprit, pour dire on peut la maîtriser, on peut faire quelque chose sur nous-mêmes, en fait.
On va effectivement moduler ce filtre cérébral pour faire en sorte que les sensations du corps, en l'occurrence la douleur, mais ça peut être aussi valable pour d'autres choses, puisque l'hypnose, c'est une hypnose finalement de relativement tout terrain. C'est valable pour la santé, mais c'est valable pour le coaching, pour le développement personnel, pour le sport, etc., pour l'éducation. Donc, on va faire en sorte qu'on va, comment dirais-je, oui, moduler le filtre cérébral pour avoir un ressenti. Justement, pousser les curseurs de telle manière que ces deux tiers de douleur puissent être très souvent complètement contrôlés, avec un peu d'entraînement.
Alors, vous citez beaucoup Erikson dans votre livre, et vous, notamment cette phrase « faire confiance à son inconscient ».
Oui.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait ?
Alors, l'inconscient, c'est une dimension plus large que l'inconscient freudien. L'inconscient freudien, très schématiquement et pour faire bref, est plutôt quelque chose qui est le lieu du refoulement dans lequel on va se débarrasser d'un certain nombre de choses qui obstruent la conscience, des peurs, nos fantômes, nos croyances, etc., qu'on estime ne pas pouvoir garder. Lui, il a une dimension beaucoup plus... Enfin, il a défini l'inconscient plus comme l'imaginaire. C'est-à-dire, ça a aussi cette fonction freudienne, mais aussi cette capacité de créativité de créer une réalité alternative, où, en l'occurrence, pour la douleur, la douleur n'existe pas.
Et là, on va aller, bien sûr, dans le vif du sujet, mais j'aime bien aller progressivement. On va avoir besoin de cet imaginaire dans l'auto-hypnose.
Absolument, mais pour tout le travail de créativité, que ce soit en hypnose, mais même simplement pour la visualisation, l'imagerie mentale, qu'on peut utiliser, je vous dis, dans le sport, le coaching ou en médecine, c'est basé sur l'imaginaire, puisqu'il est bien montré, je parlais des neurosciences, mais également en termes de neurosciences, que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité concrète extérieure et les réalités créées par l'imaginaire, à condition que cette réalité créée par l'imaginaire soit suffisamment probante. Par exemple, quand vous allez voir un film au cinéma, c'est une réalité, on sait très bien que c'est une fiction, et pourtant, quand c'est bien fait, on a des émotions, on a peur, on rigole, voilà. Et c'est exactement la même chose dans notre cinéma intérieur.
D'accord, oui, c'est une belle image, effectivement. Donc, se faire son propre cinéma. Vous parlez de cette hypnose, l'auto-hypnose thérapeutique, en fait, qui va nous servir, finalement, à nous sortir d'une douleur, à nous défaire d'une douleur. Et on est dans une société où on parle beaucoup de l'hypnose spectacle. On peut pas y échapper. Hein, en ce moment, il y a quelque chose de l'ordre de presque du commerce de l'hypnose.
Ah, c'est de l'hypnose de spectacle,
voilà.
Donc.
Qu'est-ce que vous pourriez dire justement à nos auditeurs et auditrices par rapport à ça ? Est-ce que vous, en tant que neurochirurgien, c'est dire d'abord la pratique médicale que vous avez, la connaissance parfaite des neurones, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette à la fois de cette hypnose spectacle et aussi quand on dit cette hypnose peut nous sauver aussi, peut nous servir en tout cas dans notre quotidien.
Bah, ce sont des l'utilisation quand même radicalement différente d'un état de conscience qui s'appelle l'hypnose. Alors qu'on veuille en faire du spectacle, moi j'ai pas à juger ce qui se fait, mais en tout cas c'est pas ce qui se pratique bien sûr en consultation ou dans un bloc opératoire ou aux urgences. Mais c'est l'utilisation quand même de quelque chose. Ça montre quand même que c'est quelque chose de très
c'est-à-dire
puissant.
C'est-à-dire qu'on va quand même, on utilise presque les mêmes outils en tout cas.
Ah mais c'est complètement les mêmes outils. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un état modifié de conscience. Ouais. Le sujet, que ce soit sur une scène ou dans un cabinet de consultation, va être sensible à la... Alors on va pas rentrer spécialement dans la technique de l'hypnose, mais à la suggestibilité. On augmente la suggestibilité, il y a des phénomènes de dissociation, c'est-à-dire que le corps est ici, l'esprit est ailleurs. Donc oui, bien sûr, mais c'est pas du tout l'application de la même manière. Quoi.
En tout cas, le cerveau est quand même le même, c'est l'outil de, que ce soit spectacle ou pas, on utilise cet inconscient, ces neurones, et qui vont nous permettre justement d'aller chercher quelque chose en nous qui va nous défaire finalement, qui va nous permettre de contrôler cette douleur.
Vous avez employé le terme, à mon avis, le mot-clé, c'est le contrôle.
Ouais.
Ce qui, redonner du contrôle à quelqu'un, voilà, c'est un effondreur d'anxiété extrêmement puissant. Et c'est ça qu'on donne, mon éthique est,
je maîtrise mes émotions en fait.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Je reprends la main finalement sur quelque chose. Je dis, l'éthique de la plupart des médecins, des soignants de façon générale, c'est de donner le plus d'autonomie aux patients, qu'ils ne soient pas dépendants d'une technique, d'une molécule, d'un médicament, ou d'une thérapie quelle qu'elle soit, ou d'un thérapeute même. Et à partir du moment où on a justement, Erikson disait, l'immense réservoir de ressources, et bien justement, je vais vous montrer comment en pratique.
Aller chercher cette ressource.
Aller chercher cette ressource et comment elle va pouvoir changer votre vie. Et tout le monde, l'occurrence,
tout
pour
le
la douleur.
Mais c'est
pour
cette ressource.
Absolument, puisque tout le monde peut imaginer. Ouais. Tout le monde peut imaginer.
Plus ou moins bien.
Ben, je ne sais pas, il faut demander à chacun, est-ce que vous êtes capable d'imaginer quelque chose?
D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent nous appeler au 01 42 17 10 11 si vous avez déjà pratiqué l'auto-hypnose ou l'hypnose pour essayer de contrôler cette douleur qui empoisonne la vie. Parfois, ces douleurs chroniques qui sont, comme vous le dites dans votre livre, une source d'insomnie, de dépression, de surpoids parfois, d'amaigrissement, d'addiction à des substances. Hein. Donc, vraiment, si on peut faire en sorte qu'on soit maître de soi-même et maîtriser finalement cette situation pour se défaire de ces douleurs. Attention, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne s'agit pas des douleurs qui ont un lien direct avec une cause tangible. C'est-à-dire, je me casse un bras, je me
brûle. Il faut aller voir un médecin.
Je me brûle, voilà. Bon. Donc là, évidemment, il y a des douleurs qui ont des réalités qui sont concomitantes, quoi. Donc là, en fait, la promesse de ce livre, c'est de se dire, on va essayer de contrôler, peut-être pas même essayer, vous dites, et vous pourriez même dire, on va y arriver.
Eh oui, parce que, comme disait Richard Bandler, qui est un des élèves d'Erickson, fondateur de la PNL, le seul fait de dire qu'on essaye contient la possibilité qu'on n'y arrive pas.
Il disait dans... Le choix des mots est très important.
Absolument. Quand j'entends quelqu'un qui dit j'ai essayé d'ouvrir la porte, je comprends qu'il n'y est pas arrivé. Ouais. Vous voyez, donc voilà, c'est tout. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais c'est important quand
mais
même.
C'est important,
de voir une dynamique psychique finalement de changement et d'accompagnement au changement aussi.
Le caractère positif des choses, la pensée positive est fondamentale dans l'auto-hypnose.
Dans l'hypnose, de manière générale, et bien sûr l'auto-hypnose, ça fait partie des thérapies brèves et elles sont classiquement orientées solution. Contrairement, par exemple, à une démarche comme la psychanalyse, par exemple, qui va chercher pourquoi on ne va pas bien, en hypnose, on va chercher plus directement comment aller mieux. Vous voyez qu'on est plus orienté solution. Ouais. Le seul fait de parler de la douleur est déjà de nature. On parlait de l'anxiété, de la peur de la douleur, la peur du dentiste ou des soins ou quel que soit là, est déjà de nature à amplifier la douleur selon le principe d'évocation. Donc, on va, par exemple, il y a certaines techniques qu'on fait en thérapie. Par exemple, pour la douleur, de remplacer l'échelle de douleur par l'échelle de confort.
Ouais.
C'est le principe d'évocation. Donc, le fait de parler de la guérison est déjà une guérison, d'évoquer la guérison.
Par exemple,
c'est
si
ça qui est très
puissant. Là, j'imagine que c'est pour tous les publics, mais est-ce que ça peut parler, ce langage peut parler aux enfants?
Bien sûr. Mais
j'imagine
c'est ce qu'ils font, le langage de
l'imaginaire. Du dentiste, qu'est-ce qu'on doit leur dire?
Il y a ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, qui marche pas seulement pour les enfants, mais qui... En général, la suggestibilité, la sensibilité à l'hypnose, elle diminue avec l'âge. C'est-à-dire que les enfants sont vraiment...
Vraiment dans le monde de l'imaginaire, ils sont capables de se projeter,
et c'est ce qu'ils font spontanément, d'ailleurs, en se créant des amis imaginaires ou des réalités alternatives. Ils le font déjà spontanément, donc il faut surfer sur cette énergie créatrice, parce que eux, en général, le muscle de l'imagination, il n'est pas du tout atrophié. Et au contraire, il faut en profiter.
Il est bien dynamique. Vous allez pouvoir mettre votre casque, parce qu'on a quelqu'un en ligne au 01 42 17 10 11, et on a une première question ou un premier témoignage sur l'hypnose ou l'auto-hypnose. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on vous écoute.
Bonjour.
Oui, je m'entends pas, c'est pour ça. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je voulais savoir quel lien il pourrait y avoir entre l'hypnose et le neurofeedback, si vous avez certainement entendu parler de cette méthode.
Alors, on va déjà peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est que le neurofeedback, peut-être, docteur Pincalet, je ne sais pas si...
Oui, c'est le moyen de changer certaines réactions physiologiques. Qui sont par un apprentissage en fait de retour pour pouvoir contrôler des choses qui sont pas forcément directement facilement contrôlables par la conscience.
D'accord.
On n'est pas tout à fait dans la même démarche, même si bien sûr ce sont des activités, des pratiques tout à fait complémentaires. Mais là on travaille donc non pas avec un appareil puisque c'est complètement dans l'intériorité, l'hypnose ou l'auto-hypnose. On est complètement dans le monde imaginaire, sans interagir avec une machine qui pourrait...
On est vraiment face à soi-même, en fait. On est face à son inconscient, et y compris...
Son monde intérieur.
Et son conscient, en fait. Peut-être qu'on fait dialoguer à la fois les deux.
Son monde intérieur.
Ouais, tout à fait.
Mais est-ce que ce n'est pas complémentaire, justement, d'avoir cette intériorité, cette extériorité?
Absolument, c'est très complémentaire. Oui, il faut utiliser, comme souvent, la technique qui vous parle. Celle qui intuitivement vous attire et avec laquelle vous êtes à l'aise.
Ouais. C'est très important. Mais évidemment, d'autant qu'on a parlé de cette pensée positive, il faut absolument, pour se débarrasser finalement de ce qui empoisonne, hein, il faut mettre du positif dedans. Donc il faut vraiment aller vers quelque chose où on est dans le confort. D'ailleurs, même quand vous parlez de l'auto-hypnose dans votre livre, vous dites qu'il faut être dans une position confortable, il faut être bien en fait. En
gros. C'est ça, le principe.
C'est le point de départ.
L'être humain est un animal émotionnel qui va répondre en grande partie au principe de plaisir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose qui ne nous fait pas plaisir ou pour lequel on n'a pas une motivation. On ne fait pas quelque chose, on ne reste pas dans un endroit, même si c'est un endroit imaginaire, dans lequel on s'ennuie. Ouais. S'il n'y a rien à faire, on va changer d'état de conscience, de lieu, de pièce. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est exactement ça qui nous drive, en fait.
Merci pour votre question, parce qu'on voilà, on a parlé aussi de cette méthode-là. Mais même si le sujet du jour, c'est l'hypnose et l'auto-hypnose, peut-être un mot sur l'importance de la respiration. Vous en parlez dans votre livre, c'est presque un peu le point de départ, c'est réapprendre à respirer. D'abord parce que vous le dites hein, dans votre livre, expirer ou inspirer, ça va entraîner des choses au niveau cérébral.
Oui, toutes les traditions, j'ai parlé, la médecine chinoise, le taoïsme, la médecine ayurvédique, le yoga, la sophrologie, enfin énormément de techniques d'intégration de l'esprit et du corps travaillent sur la respiration, puisque la respiration est vraiment, on parle du souffle de vie, hein, le chi, c'est vraiment le souffle de vie, c'est exactement ça, c'est le souffle, l'énergie vitale. Et donc on peut contrôler, c'est quelque chose qu'on peut bien sûr contrôler aussi par la conscience, c'est ça qui est intéressant, contrairement par exemple au battement cardiaque. Ouais. Hein, la respiration peut être contrôlée. Et on parle d'inspirer, ça vient de l'esprit. L'esprit au sens de quelque chose de subtil.
La respiration, le mouvement cardiaque n'est pas modifiable en soi.
Pas directement.
Mais en tout cas, la respiration peut modifier
bien sûr.
Le mouvement cardiaque.
Bien sûr, on peut le modifier de manière indirecte.
Ouais. Et du coup, quand on va travailler sur justement, quand on vous dit dans votre livre, quand on inspire, ça va augmenter la fréquence cardiaque, et quand on expire, ça la diminue, et du coup, ça a une incidence sur le cerveau, sur les neurones.
Oui, parce que il y a l'oxygénation, il y a bien sûr, ça c'est des principes physiologiques, mais au niveau plus subtil, il y a l'oxygène, enfin l'énergie que représente l'oxygène, enfin qui est plus qu'on appelle le prana par exemple en médecine ayurvédique, une tradition plurimillénaire, c'est également la même chose, c'est-à-dire qu'on finalement on inspire et on se sent inspiré à tous les sens du terme pour changer des choses dans notre vie, pour aller mieux. Pour traiter les douleurs, pour améliorer le confort. Voilà.
On parle bien sûr de la douleur donc, et de justement de ce moyen de pouvoir la contrôler, de pouvoir la maîtriser, peut-être même justement de la faire disparaître, parce que c'est ça le but, hein, c'est se débarrasser
tout cas la contrôler.
Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, on a énormément de traitements à notre disposition. On a tous les antalgiques, les analgésiques, la kiné, quand c'est une douleur. On a l'acupuncture, enfin, on a les antispasmodiques quand on a un peu mal au ventre. Donc, on a toute une kyrielle de médicaments qui sont là pour nous aider. Et vous, en gros, vous dites, il y a des choses qu'on peut faire soi-même en se passant de ces médicaments.
J'ai ni dit ni écrit. J'ai dit qu'il fallait effectivement absolument ne rien changer à son approche médicale, au diagnostic, au traitement.
Mais le but final, c'est de se débarrasser des médicaments.
Peut-être, pas forcément.
D'accord.
Au début, on va déjà développer. On s'occupe pas. Moi, je m'occupe pas spécialement au départ pour une prise en charge, par exemple, pour la douleur, du traitement médical qui a été instauré par un confrère ou qui est déjà en cours. L'idée, c'est que les gens puissent s'emparer de l'hypnose et de l'auto-hypnose pour aller mieux. D'accord. Après, si effectivement, ça aboutit à une diminution d'un traitement médical, c'est très bien.
C'est vrai qu'en fait, dans votre livre, ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a un moyen de contrôler que ça va mieux, c'est qu'on se dit qu'on a diminué
absolument.
Le nombre de médicaments qu'on prend.
Voilà,
ça, c'est une mesure,
un critère quantifiable d'amélioration, il peut y en avoir plusieurs, dont la diminution du traitement par ailleurs, parce qu'on n'en a plus besoin.
C'est ça. Alors, comment on y arrive justement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un point de vue concret à nos auditeurs? Comment ça se passe, cette auto-hypnose? À quel moment on se décide de le faire? Quels sont les exercices? Voilà, vous le dites dans votre livre, il y a beaucoup de passages, on pourra en lire quelques-uns, mais c'est assez particulier, il faut se mettre dans un état avant, dans un pré-état d'hypnose.
Oui, alors ce que je dis à mes patients et ce que j'ai écrit dans le livre, c'est que pratiquement, moi, mon conseil est quand même d'aller consulter un praticien en hypnose, un hypnothérapeute, pour apprendre, si la personne n'a jamais fait d'hypnose et n'a jamais vécu l'état hypnotique, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus rapide. Mon rôle est aussi de leur faire gagner du temps dans l'avancement, enfin de leur prise en charge. Et c'est d'aller apprendre l'auto-hypnose avec un praticien, au moins une séance, pour qu'ils vivent l'état d'hypnose et qu'ils réalisent qu'en fait, c'est des états qu'ils ont souvent vécu. Mais voilà.
C'est quoi, comment vous pourriez définir l'état d'hypnose?
C'est un état... Ça ressemble à une forme de rêverie, justement, où on active l'imaginaire et on va fonctionner. C'est un état de conscience, donc on fonctionne différemment, en particulier au niveau des sens, au niveau des cinq sens, où la sensorialité du corps est vécue différemment. Le temps est distordu, enfin est dilaté ou compressé. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose que l'état ordinaire.
C'est sûr, ça semble évident. Mais pour ceux qui l'ont jamais... Est-ce qu'en fait... Parce que moi, je sais que je vous donnais mon avis, enfin, un témoignage personnel, hein, je vous en ai parlé. J'ai eu peur à un moment de l'avion, j'ai lu un article et j'ai fait moi-même de l'auto-hypnose en faisant vraiment mot pour mot ce qui m'était proposé par cet article. Hein, c'est-à-dire, je ferme les yeux, j'imagine que dans l'avion, en fait, je suis chez moi, dans mon espace personnel, je connais très bien. En fait, pour se réapproprier l'espace, se dire je suis dans un endroit connu et pas inconnu, donc ce qui diminue effectivement l'anxiété, etc. Et ça a fonctionné, mais je ne sais pas si ce sont les bons gestes, mais peu importe, en tout cas, ça m'a permis de ne plus avoir peur de l'avion.
Donc, c'est ça.
Donc, mais en gros, comment savoir si on est effectivement dans cet état d'hypnose ou pas? Ça, on ne peut pas le savoir.
Le plus simple, encore une fois, est de le vérifier et de se laisser porter dans une séance d'hypnose en face à face par un praticien, au moins pour savoir ce que c'est. Et après, il pourra, si c'est votre demande, vous apprendre l'auto-hypnose. Et puis, il y a d'autres, des ouvrages, le mien, et puis il y en a d'autres qui sont très bien faits. Il y a des tutos en ligne, des formations en ligne. Voilà. Il y a pas mal de ressources pour apprendre. L'essentiel, c'est de plonger quand même dans l'expérience. Il ne faut pas que l'hypnose, comme beaucoup de travail sur l'intériorité, soit quelque chose d'intellectuel. Mm-hmm. Au départ, on peut bien sûr... Mais c'est quelque chose qu'on va expérimenter. Ça, c'est un mot-clé qui est très important. Il faut le vivre. Mm-hmm. On n'y réfléchit pas spécialement. Il faut le vivre. Alors, le risque pour certaines... Alors, vous avez réussi par vous-même, finalement, parce que vous aviez sûrement des prédispositions, une capacité à imaginer, que ça c'était prêt, peut-être, quelque part, dans votre inconscient, de régler ce problème de phobie de l'avion. Pour certaines personnes, c'est parfois plus long, quel que soit le thème de la consultation, le motif, l'objectif. En tout cas, voilà, c'est un apprentissage. Moi, j'insiste vraiment sur la notion de processus, la notion d'entraînement. On va progresser en musique, en sport, en s'entraînant, en pratiquant. L'auto-hypnose, c'est la même chose. On peut imaginer que l'accès à son inconscient, c'est l'immense réservoir de ressources dont on parlait tout à l'heure, peut être au départ un chemin un peu pas facile à pratiquer, et qu'après quelques passages, ça devienne presque un autoroute. Moi, à titre personnel, pendant mes séances d'auto-hypnose, quand on me demande vraiment comment je fais, quelle technique pratiquement j'utilise, je ne peux pas vous répondre. Je me mets en auto-hypnose, j'y suis. Parce qu'au début, oui, c'était quelque chose de plus formel. Et c'est ce que font les patients au bout d'un certain temps. Ça prend plus ou moins du temps. C'est vraiment la notion d'apprentissage. Je crois que c'est ça qui est important.
C'est comme si finalement, on faisait des exercices de souplesse au niveau du cerveau.
Exactement. Muscler son imagination et créer justement une réalité intérieure.
Alors justement, quand on parle d'imagination, je crois que quand on parle d'hypnose, c'est un petit peu l'art de la métaphore, en fait. C'est avoir suffisamment de ressources pour s'imaginer, d'abord, voilà, de comparer aussi certaines choses du réel à quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Donc, c'est se dire, j'ai l'impression que je suis au bord de la mer, en train de regarder un magnifique spectacle de vagues qui viennent, etc., un ciel bleu, alors qu'on est dans un moment où tout est gris, finalement. Donc, c'est peut-être justement de se dire, On va aller vers la pensée positive, mais avec des images.
C'est ça, les deux cerveaux dont j'ai parlé, enfin les deux modes de fonctionnement, parce qu'on dit cerveau droit, cerveau gauche, il n'y a pas de réalité, même s'il peut y avoir des asymétries dans les hémisphères physiques du cerveau. C'est plus des modes de fonctionnement différents. Il y a le cerveau cartésien, logique, qu'on peut appeler gauche, et puis le cerveau droit, de l'imaginaire, de la métaphore. Il répond de l'inconscient au sens où on l'a défini avec Erikson. Donc c'est vraiment schématiquement, 85% de la psyché reste sous l'eau, en fait, dans cet imaginaire pas facilement accessible. Et puis, le cerveau cartésien, c'est à peu près 15%. Et donc, le langage de ce qu'on peut appeler le cerveau droit, c'est le langage métaphorique. Ouais. 1 plus 1 égale 2, ça, c'est le cerveau cartésien. 1 plus 1 égale la couleur verte. Ça pose pas de problème. Si c'est ça la réalité, si c'est ça le ressenti, voyez. Et ça, c'est très puissant. C'est une compréhension qui est moins. La métaphore est une compréhension peut-être moins précise, mais beaucoup plus puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle a cette dimension émotionnelle.
Parce qu'elle nous renvoie à quelque chose de, bon, bien sûr, de l'ordre de l'émotion. Mais est-ce que ça doit nous renvoyer quelque chose de l'ordre du souvenir ?
Possiblement, ça dépend de chacun.
Du déjà vu ou pas forcément?
Possiblement, bien sûr. Oui, ça résonne à des souvenirs d'enfance, enfin d'une autre réalité qu'on peut raccrocher comme ça, de cette manière. Et ce qui est intéressant, c'est le caractère immédiat de la compréhension de la métaphore. Vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un de manière logique. On va ramer un petit peu. L'image, on dit bon, alors t'oublies ça et je vais t'expliquer ça autrement. Ah oui, c'est vrai, là je comprends.
Dans votre livre, vous parlez bien sûr de cette fameuse, du déroulement finalement d'une séance, mais aussi de cette préparation. Vous parlez de la position, la mesure de la douleur, c'est-à-dire déjà de se dire où j'ai mal, pourquoi, quelle est cette douleur, comment, à combien je peux l'estimer en gros.
Oui,
c'est important d'abord de se dire, de ressentir d'abord cette douleur et de la quantifier.
Oui. Tout ça pour avoir un objectif d'une séance, ça c'est important. Si on n'a pas d'objectif, on n'a pas de résultat.
Vous le répétez dans votre livre.
Bien sûr, comme beaucoup de choses dans la vie, dans un projet.
Si c'est un objectif, ça peut être quoi par exemple?
D'améliorer le confort par exemple dans le corps. Si vous avez une douleur de hanche.
Je veux améliorer le confort dans mon corps.
Si une douleur de genou, si vous faites de l'auto-hypnose.
On se fixe cet objectif et on le dit clairement. Vous parlez d'énoncer clairement les choses.
Oui. Oui, pour que ce soit bien clair, et ça prend de la force, ça prend de la puissance.
On se parle à soi-même.
On se parle à soi-même, c'est un dialogue intérieur. Alors, au début, c'est vrai que dans les séances d'auto-hypnose guidée que j'ai écrites, qui ont été pour certaines été retranscrites, on est dans un dialogue, mais au bout d'un certain temps, cette évolution dans l'imaginaire, on ne se parle plus vraiment, on a des pensées en fait. Et puis on se déplace dans cette réalité alternative intérieure.
Vous dites où la douleur n'existe pas. Dans votre livre, je peux lire par exemple, il faut énoncer clairement l'objectif que l'on veut atteindre, on l'a dit. Par exemple, je souhaite que la fréquence de mes migraines diminue, je souhaite pouvoir m'habiller plus facilement le matin, je souhaite pouvoir marcher 10 minutes de plus par jour. Donc, comme vous dites, se fixer des objectifs, je souhaite reprendre mon travail, je souhaite reprendre la danse ou toute autre activité physique. Donc déjà, se dire ce que l'on veut.
Orienter solution.
Voilà. Donc vraiment.
Si vous dites ne plus avoir de douleur, vous avez évoqué le terme de douleur, donc vous restez dans le problème finalement. Ouais, ne serait-ce que par l'évocation du terme. Si
donc,
je veux
en
aller
fait,
mieux.
Je dis pas je veux plus avoir mal. Je dis je souhaite pouvoir reprendre la danse par exemple.
C'est un objectif
positif.
C'est orienté solution. Si c'est votre objectif et c'est ça qui ça va être de nature bien sûr à évoquer la guérison et déjà de la guérison.
On va se retrouver dans un petit instant. Vous pouvez nous appeler au 01 42 17 10 11. Et on va se retrouver après cette petite pause. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes en compagnie du docteur Philippe Pincallet pour son livre « Hypnose et auto-hypnose » chez Albin Michel.
Keep moving.
Et l'on parle aujourd'hui d'hypnose et d'auto-hypnose avec mon invité, le docteur Philippe Pincalet, pour son livre paru chez Albin Michel, Pour soulager la douleur, ça marche, hein, voilà, avec un point d'exclamation. Et vous proposez dans ce livre des exercices à faire soi-même, donc bien sûr, vous pourrez les retrouver dans le livre. Quand on parle d'hypnose, d'auto-hypnose, vous en parlez aussi dans votre livre, on parle souvent de cette transe. C'est un mot qui peut faire peur, non?
Ce sont des étiquettes, ouais. Comme souvent les mots, et en fait c'est la transe qui est surtout un phénomène naturel, tout à fait naturel, c'est un état de rêverie, le fait d'être dans la lune, ouais. C'est un état
c'est
de transe.
C'est transcendantal, on dit.
Oui, alors, voilà, c'est un état où de rêverie hein, qui débute, et en amplifiant cet état de transe, encore une fois qui est un phénomène naturel qu'on vit plusieurs fois par jour, tous les jours, et tout le monde, ouais. En amplifiant cet état de transe par certaines techniques donc d'hypnose, on obtient l'état d'hypnose.
Ouais. En fait, donc en fait c'est le point de départ, c'est presque une sorte de rêve qui nous amène finalement à un autre état.
C'est l'activation de l'imaginaire, c'est la connexion avec l'inconscient tel qu'on l'a défini et ce cerveau droit, quoi, on peut dire.
Ouais. Alors c'est vrai que ce mot, bon, donc finalement, ne doit pas faire peur en soi, hein, puisque c'est juste un état qui nous permet...
Mais qu'on connaît tout le temps. Voilà.
Oui. Mais en revanche, vous parlez beaucoup de boîtiers magiques, les gants magiques dans votre livre. Est-ce que c'est de la magie aussi?
Non. Alors ça peut avoir un caractère magique dans certains cas, mais comme certains traitements ou certaines chirurgies, vous voyez, avec un résultat. Non, je surtout pas. alors par le caractère que j'ai voulu quand même avec des bases neuroscientifiques. Hein, si vous tapez hypnose et douleur dans les bases de données de recherche scientifique, il y a plus de 2000 publications qui parlent d'hypnose et de douleur. Donc
C'est du sérieux.
Absolument, et c'est avec des bases neuroscientifiques tout à fait bien montrées. Donc pour revenir sur le côté magique, c'est justement cette activation dans imagination, dans imaginaire, vous avez le mot magie. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant, et de pouvoir justement travailler là-dessus et de parler le langage de l'inconscient.
C'est presque freudien ce que vous nous dites, docteur.
Peut-être, oui, c'est simplement une...
Vous trouvez magie dans imaginaire.
Oui, ou esprit dans inspiré, puisque c'est simplement de la grammaire. Mmh. Hein, c'est des racines qui sont identiques. Alors, pas mettre dans la pensée magique, c'est-à-dire que simplement avec l'état d'hypnose, on arrive à changer les choses s'il n'y a pas le pouvoir de l'intention, de la transformation intérieure, soit faite par soi-même, soit faite par le thérapeute.
Ça doit partir de là, en fait, de l'intention. Et de l'intention positive.
Absolument. Et pas être dans la pensée magique que simplement par l'état d'hypnose, on va changer s'il n'y a pas une volonté derrière et un travail. C'est pour ça qu'on parlait d'entraînement et de voilà, il y a des gens qui viennent par exemple pour arrêter le tabac. Arrêter de fumer. Et ils sont dans la croyance que simplement l'état d'hypnose, c'est bien, on va mettre en état d'hypnose, je vais dormir alors que c'est pas un sommeil, oui, donc c'est des croyances. Et puis quand je vais me réveiller, je vais plus avoir envie de fumer. Bah, si la personne, si le thérapeute ou la personne qui a mis le sujet en état d'hypnose n'a pas fait un travail spécialement, il se passera rien.
Ouais. Vous dites aussi, on va pouvoir conclure là-dessus, qu'il faut remercier son inconscient. C'est-à-dire
si c'est un immense réservoir de ressources avec lequel on va pouvoir changer des choses extrêmement puissantes dans sa vie, effectivement, c'est établir, finalement rentrer en amitié avec soi-même, puisque c'est une partie de nous.
S'aimer soi-même, quelque part.
S'aimer soi-même, ouais. Voilà, et pouvoir se dire, le remercier effectivement pour tout le travail qu'il a voulu faire et parce qu'on n'a pas un accès finalement direct, hein, il faut lui parler un langage spécial, le langage métaphorique, le langage de l'hypnose, pour obtenir ces changements. Donc c'est toujours intéressant de gratifier finalement un interlocuteur intérieur qui n'est jamais que nous-mêmes.
Ouais. Parler à haute voix ou en soi?
En général, c'est en soi, c'est dans son dialogue intérieur.
Peut-être un dernier conseil, peut-être à nos auditeurs qui nous, et auditrices qui nous écoutent sur RCJ dans Objectif Santé, par rapport à cette auto-hypnose et cette hypnose, qu'est-ce que ça peut apporter, voilà, dans, qu'est-ce que, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être à ceux qui nous écoutent pour parler de cette auto-hypnose comme de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du surnaturel, en fait. Hein.
Non, puisqu'on ne fait qu'utiliser des fonctions que le cerveau, déjà spontanément, utilise. Je vous dis, l'imagination, c'est, ouais. Tout le monde peut imaginer. Donc, ça peut servir dans énormément d'indications, et pas seulement pour la santé.
Alors, pas seulement pour la santé, en tout cas, l'essentiel, c'est de pouvoir apprendre à se réapproprier quelque chose qui nous appartient, voilà, de ce conscient qui va nous permettre d'aller contrôler cette douleur, mais pas uniquement la douleur, mais parfois même les anxiétés, parfois même tout ce qui nous dérange, qui empoisonne la vie au quotidien.
L'amélioration du sommeil, la gestion du stress, énormément d'indications, les phobies, vous en parliez tout à l'heure, la confiance en soi, arrêter de fumer. On peut faire, c'est l'intégration c'est le langage qui permet, un des langages qui permet une bonne intégration corps-esprit. On peut faire de la chirurgie sous hypnose, y compris des chirurgies très invasives. Par exemple, sans vouloir l'opposer, on ne peut pas faire de chirurgie en état méditatif. Parce que ce n'est pas la même. Il y a effectivement un dialogue intérieur, un travail sur soi, mais on n'est pas tout à fait dans les mêmes objectifs.
Hypnose et auto-hypnose avec du docteur Philippe Incalé, c'est paru chez Albin Michel. Pour soulager la douleur, ça marche, et avec des exercices, voilà, donc c'est ce que vous proposez dans votre livre. Merci infiniment d'être venu sur RCJ pour nous parler de ce livre.
Et voilà, merci à vous.
Ça, il y a beaucoup de personnes, parce que effectivement, on se réapproprie quelque chose, et voilà, quand on est maître de soi-même, c'est le beau cadeau. Hein. Merci à tous, et je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.
Bon social juif unifié.